Lutter contre le découragement. J'ai presque abandonné, quand il semblait que c'était impossible. Quand les chances étaient contre moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. Cela semblait être la fin. Puis tu as parlé aux os desséchés. Et ce qui était impossible, tu l'as rendu possible. Jésus y. Connais-tu ce sentiment? Atteindre ce point où tu veux abandonner. Quand les pressions et les soucis de cette vie deviennent trop lourds. Quand il semble que les chances sont contre toi. Et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Quand l'obscurité te submerge et que tu luttes juste pour voir la lumière. Connais-tu ce sentiment? Où vas-tu dans ces moments-là? Vas-tu seul dans la caverne avec tes pensées? Vas-tu voir un ami? Te tournes-tu vers des comportements destructeurs? Où vas-tu quand tu veux abandonner?
Eh bien, c'est ce à quoi je veux que nous réfléchissions ce matin. Alors si vous avez une Bible, veuillez vous tourner avec moi vers 1 Roi 19. Récemment, nous avons commencé une série de sermons examinant le prophète Élie de l'Ancien Testament. Sa vie est documentée en seulement 5 chapitres, et pourtant, il est souvent mentionné dans le Nouveau Testament.
Nous avons examiné 1 Roi 17, lorsque Dieu a dit à Élie de dire au roi Achab qu'il n'y aurait pas de pluie pendant longtemps en Israël.
Ensuite, nous avons vu comment Dieu a pourvu aux besoins d'Élie
dans un ravin et par l'intermédiaire d'une veuve qui n'avait pas grand-chose.
Dimanche dernier, nous avons examiné le chapitre précédent, le chapitre 18.
Nous avons vu le duel entre Élie, le prophète de Dieu, et les prophètes de l'idole Baal, sur le mont Carmel. Les prophètes ont fait de leur mieux pour invoquer leur Dieu afin qu'il envoie du feu. Mais ils ont appelé et appelé, et personne n'a répondu. Puis Élie a offert une prière courte et simple, et Dieu a fait descendre le feu. Ce fut un moment incroyable de triomphe. Dans le ministère, ce sont le genre de moments dont vous rêvez, pour lesquels vous priez. Voir Dieu agir d'une manière si miraculeuse, cela ne peut guère être mieux que ça.
1 Roi 18 est le plus haut sommet que vous puissiez atteindre.
Élie était littéralement au sommet de la montagne. Baal avait été vaincu.
Israël a confessé que le Seigneur est Dieu.
Maintenant, le roi Achab doit aller annoncer la nouvelle à sa femme, Jézabel.
19. 1 Achab raconta à Jézabel tout ce qu'il y avait fait et comment il avait tué tous les prophètes avec l'épée.
2. Alors Jézabel envoya un messager à Élie, en disant « Que les dieux me fassent ainsi et plus encore, si je ne fais pas de ta vie comme la vie de l'un d'eux d'ici demain, à cette heure. » Le roi raconte à sa femme ce qui s'est passé au mont Carmel. Après que Dieu a envoyé le feu du ciel, Élie a mis à mort les faux prophètes d'Israël. Cela semble extrême pour nous aujourd'hui. Mais Dieu avait averti Israël que tout prophète qui essaie d'éloigner le peuple de Dieu de lui, quiconque essaie d'inciter Israël à adorer quelqu'un d'autre, doit être purgé. Et Élie a obéi au Seigneur. Vous pourriez penser que cette nouvelle pourrait déranger Jézabel, ou l'effrayer, ou peut-être la conduire à la repentance. Mais rien de tout cela ne se produit. Son cœur est dur. Elle parle toujours des dieux, non du Dieu d'Israël. Rien n'a changé en elle. Elle veut se venger. Elle veut se faire justice. Elle veut qu'Élie soit mort dans les 24 heures.
Et nous savons que ce ne sont pas des paroles en l'air.
Nous avons lu la semaine dernière, dans le chapitre 18, comment Jézabel avait mis à mort de nombreux prophètes du Seigneur. Mais Abdias avait pu en cacher certains et les sauver. Alors Jézabel envoie le message à Élie. « Je te veux mort dans les 24 heures. »
Maintenant, vous pourriez penser que si vous étiez Élie, vous diriez « Et alors ?» Que m'importe ce que dit Jézabel? Je viens de voir Dieu faire des choses incroyables. Dieu m'a utilisé, moi un prophète, pour vaincre 450 prophètes. Alors qu'est-ce que ça peut faire ce que Jézabel a à dire?
Le Seigneur est de mon côté.
Vous pourriez vous attendre à ce que ce soit la réaction d'Élie, mais regardez le verset 3.
Puis il eut peur, se leva et s'enfuit pour sauver sa vie, et arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur.
Votre traduction dit probablement qu'Élie avait peur. Peut-être que votre traduction dit plutôt qu'il a vu. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a découvert la menace, il s'est levé et a couru pour sauver sa vie. Il est parti de là, et il est allé de Jizréel, dans le royaume du nord, jusqu'à Beersheba, dans le royaume du sud de Juda.
La distance était de presque 200 kilomètres. Et il n'a pas pris un train ou un bus. Il a couru.
Mais il y a quelque chose de remarquablement absent dans le texte.
Dans les chapitres précédents, quand Élie se déplaçait, il était toujours dit que la parole du Seigneur lui était adressée. La parole du Seigneur lui vint et lui dit d'aller au ravin dans le chapitre 17. La parole du Seigneur lui vint et lui dit d'aller chez la veuve pour se nourrir. La parole du Seigneur lui vint et lui dit de confronter le roi Achab dans le chapitre 18. Mais au verset 3, il n'y a aucune mention de la parole du Seigneur.
Élie court littéralement seul.
Littéralement seul, comme nous le voyons à la fin du verset 3. Il laisse son serviteur.
Mais lui-même fit une journée de marche dans le désert
et alla s'asseoir sous un genêt. Et il demanda à mourir en disant « C'est assez. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Élie va dans le désert et s'assoit sous un arbre. J'imagine qu'il était assez fatigué, peut-être épuisé après le long voyage.
Alors il s'assoit sous l'arbre et dit à Dieu « J'en ai assez. Ça suffit. Dieu, j'ai terminé. »
Élie veut s'en aller. Il dit qu'il en a terminé avec sa mission de prophète. Il en a assez. Il veut démissionner. Mais pas seulement ça. Il veut démissionner de la vie. Il demande à Dieu de prendre sa vie. Maintenant, vous pourriez vous demander, comment cet homme de Dieu peut-il parler ainsi? Comment pourrait-il même mentionner quelque chose d'aussi sombre? Où est sa foi?
Mais ce n'est rien de nouveau dans la Bible. Moïse a dit quelque chose de similaire. Job souhaitait ne jamais être sorti du ventre de sa mère. Le prophète Jérémie a dit quelque chose de semblable. Jonas a demandé à Dieu de prendre sa vie. Et maintenant, voici Élie, assis sous un arbre, demandant à Dieu de faire la même chose. Peut-être que certains d'entre vous pensent, comment Élie peut-il parler ainsi? Mais certains d'entre vous peuvent totalement s'identifier à Élie, assis sous cet arbre. Vous savez ce qu'il ressent. Vous connaissez cet endroit.
Élie était dans un moment de grand découragement. Peut-être pensait-il que l'événement au Mont Carmel serait ce grand changement pour la nation d'Israël. Que tout le monde reviendrait vers le Seigneur et le suivrait. Et pourtant Jézabel était toujours à l'œuvre. Jézabel voulait sa mort. Et pour Élie, c'était tout simplement trop. Et il dit, « Dieu, c'est assez, je veux sortir, c'est trop, c'est trop. » Et Élie, à ce moment-là, ne peut voir qu'une seule issue. Il ne voit qu'une seule échappatoire, et c'est que Dieu prenne sa vie. C'est un rappel que nos pensées peuvent aller dans des endroits vraiment sombres, surtout quand nous sommes seuls. Rappelez-vous, Élie avait renvoyé son serviteur. Donc c'était juste Élie et ses pensées. Et quand vous êtes dans un endroit sombre, cela peut être une recette très dangereuse.
Il demande à Dieu de prendre sa vie, et regardez à nouveau la fin du verset 4. Car nous avons un aperçu des pensées d'Élie. Il dit, « Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Qui étaient ses pères? Élie parle des prophètes qui étaient avant lui. Les prophètes que Dieu a également utilisés pour appeler la nation d'Israël à revenir vers lui. Comme je l'ai dit auparavant, les rois dans les livres des rois et chroniques étaient pour la plupart de mauvais rois. Et le peuple d'Israël avait tendance à suivre le roi. Alors, Élie regarde les prophètes qui étaient avant lui et ne pense pas qu'ils ont été très efficaces, et maintenant il pense qu'il n'a pas fait de différence non plus. Élie pense qu'ils ont échoué et qu'il a échoué aussi. Ils n'ont pas fait de différence, et je n'ai pas fait de différence non plus.
Élie pensait qu'il allait être différent. Il s'attendait à être meilleur. Mais il regarde tout ce qui se passe et pense « Je ne suis pas meilleur qu'eux.
Le mal semble continuer à gagner, donc j'ai échoué. La vie ne s'est pas déroulée comme il l'espérait ou le rêvait.
Dans son esprit, il avait échoué.
Et cela l'a mené dans un endroit très sombre.
Mais a-t-il réellement échoué?
Dieu lui a-t-il dit d'être meilleur que les prophètes qui sont venus avant lui? Ou était-ce une attente qu'il s'était imposée?
Je pense que c'était une attente qu'il s'était imposée.
Jusqu'à présent, Élie avait été fidèle en accomplissant tout ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. La parole du Seigneur était venue à Élie,
et Élie avait obéi. C'était le modèle. Élie était fidèle.
Ce sentiment d'échec venait-il du Seigneur ou venait-il d'Élie?
Il venait d'Élie. Il venait de l'intérieur. Il était fidèle, mais il voulait aussi voir du fruit. Il voulait voir des résultats. Est-ce une mauvaise chose? Non. Je pense que nous voulons tous voir de bons fruits. Nous voulons tous voir des résultats incroyables. Il n'y a rien de mal à cela. C'est un bon désir.
Le problème survient lorsque nous basons notre importance sur les résultats, bons ou mauvais. Le problème se pose lorsque notre identité et notre valeur sont fondées sur les résultats. Élie n'a pas vu les résultats qu'il souhaitait, alors il en a conclu qu'il avait échoué. Mais ce n'était pas vrai. Il a été fidèle dans le ministère que Dieu lui avait confié. Les résultats appartiennent au Seigneur.
Dieu veut que vous soyez fidèle dans les choses qu'il vous a appelé à faire. Être un étudiant fidèle, ou être un employé fidèle, être un conjoint fidèle, être un père ou une mère fidèle, être fidèle dans le ministère auquel il vous a appelé.
Ne te compare pas aux autres.
Ne compare pas ta famille à celle des autres. Ne compare pas ta situation de vie à celle de quelqu'un d'autre.
Ne te compare pas aux personnes du passé, comme Élie, et ne te compare pas aux autres autour de toi. Continue à courir la course que Dieu a tracée pour toi. Garde les yeux sur Jésus, l'auteur et le protecteur de notre foi. Ne regarde pas autour de toi pour te comparer aux autres. Cela ne peut que te conduire à des pensées sombres.
Sois fidèle à ce que Dieu t'a appelé à faire.
Oui, nous voulons voir de bons résultats. Oui, nous espérons de bons résultats. Oui, nous prions pour de bons résultats, mais les résultats appartiennent au Seigneur. Nous plantons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui donne la croissance.
Se comparer aux autres, comme nous le voyons avec Élie, peut vous mener à des endroits sombres. Élie demande à Dieu de prendre sa vie. Dieu acceptera-t-il? 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » 6. Il regarda, et voici, il y avait près de sa tête un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une jarre d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha.
Élie s'endort.
Clairement, il était épuisé, alors il se repose sous un arbre. Mais ensuite, un ange du Seigneur lui dit de se lever et de manger. Il y avait là un gâteau et une jarre d'eau. Cela vous dit-il quelque chose? Cela nous rappelle la nourriture que la veuve avait fournie à Élie au chapitre 17.
On ne nous dit pas qu'Élie savait que cette nourriture et cette eau venaient du Seigneur, mais cela aurait dû être un indice.
Le gâteau et la jarre auraient dû lui rappeler que Dieu avait été fidèle envers lui, dans le passé, et qu'il le serait encore à l'avenir. Je ne suis pas sûr qu'Élie ait fait ce lien. Peut-être l'a-t-il fait, peut-être pas. Mais il mange la nourriture, boit l'eau, et se recouche.
Le Seigneur a pourvu aux besoins physiques d'Élie.
Comme le dit le proverbe, rien de mieux qu'un bon repas et une bonne sieste. Cela nous rappelle que nous avons des besoins spirituels, des besoins émotionnels et des besoins relationnels. Mais nous avons aussi des besoins physiques. Nous avons faim. Nous sommes fatigués. Nous avons soif. Ces choses peuvent aussi affecter notre état d'esprit.
Quand je parle à certaines personnes qui traversent vraiment une période sombre, qui sont découragées, nous parlons du côté spirituel, mais je leur pose aussi des questions sur le côté physique. Comment est votre alimentation? Dormez-vous suffisamment? Faites-vous de l'exercice? Passez-vous assez de temps dehors au soleil? Ce sont des choses importantes qui affectent aussi votre ressenti. Dieu, avec compassion et amour, prends soin des besoins physiques d'Élie.
7. Et l'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. »
8. Et il se leva, mangea et but, et marcha avec la force de cette nourriture, 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur revient et lui donne plus de nourriture, ce qui est bien, car Élie a décidé d'entreprendre un long voyage jusqu'au mont Horeb, qui
qui était à environ 400 kilomètres.
Le mont Horeb était un lieu important pour Israël. Il était également appelé le mont Sinaï, et c'était la montagne où Moïse reçut les 10 commandements. C'était aussi l'endroit où Moïse vit la gloire et la bonté de Dieu passer devant lui. C'était donc un lieu important pour Israël, et c'est là qu'Élie décida de se rendre ensuite. Et c'est bien qu'il ait beaucoup mangé, parce que le voyage prit finalement plus de temps que prévu. Cela lui prit 40 jours et 40 nuits pour y arriver.
Bien sûr, le nombre 40 est significatif dans la Bible.
Le déluge a duré 40 jours. Après que Moïse eut tué les Égyptiens, il partit dans le désert pour 40 ans. Israël erra dans le désert pendant 40 ans. Jésus fut tenté dans le désert pendant 40 jours. Et maintenant, Élie fera un voyage de 40 jours jusqu'au mont Horeb, la montagne de Dieu.
9. Là, il arriva une caverne et y passa la nuit. Et voici la parole du Seigneur vint à lui, et il lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? » Après 40 jours et 40 nuits, Élie arrive à la montagne. Il trouve une caverne pour y dormir et se reposer. Et enfin, quelque chose est revenu. Qu'est-ce que c'est ? C'est la parole du Seigneur.
La parole du Seigneur vient à Élie et dit, « Que fais-tu ici ?»
Dieu vient à Élie dans la caverne, dans l'obscurité, et demande, « Pourquoi es-tu ici ?» 10. Il dit, « J'ai été très jaloux pour le Seigneur, le Dieu des armées. Car le peuple d'Israël a abandonné ton alliance, renversé tes autels, et tué tes prophètes par l'épée. Et moi seul, je suis resté. Et il cherche ma vie, pour l'ôter. » Élie dit à Dieu, « Seigneur, j'ai tout donné pour toi. J'ai été passionné pour toi. J'ai été jaloux pour toi. Je t'ai servi fidèlement. Je t'ai tout donné. J'ai tellement fait pour toi. » Et pourtant, selon l'avis d'Élie, pas grand-chose n'a changé. Le peuple d'Israël est toujours désobéissant. Ils suivent encore d'autres idoles et tuent les prophètes du Seigneur.
La première partie du verset 10 est vraie.
Élie ne ment pas. C'est un rapport assez précis. Élie avait été fidèle à Dieu et Israël continuait d'être désobéissant. C'était vrai. Mais la fin du verset 10 n'est pas aussi exacte. Il dit que les prophètes ont été tués et qu'Élie est le seul qui reste. Il dit qu'il ne reste que lui. Dans son esprit, c'est Élie contre le monde. C'est le récit dans son esprit. Tout le monde est contre lui, et il est tout ce qui reste.
C'est ce qu'il pense.
C'est l'histoire qu'il se raconte. Mais est-ce vraiment vrai? Eh bien, nous découvrirons dans quelques versets que ce n'était pas vrai. Mais nous savons aussi que ce n'est pas vrai. Vous souvenez-vous de la semaine dernière, quand nous avons regardé le chapitre 18 et l'homme Abdias? Abdias était un homme bon qui travaillait pour un mauvais roi.
Mais Dieu a utilisé Abdias pour cacher 100 prophètes du Seigneur et les a sauvés de la reine Jézabel.
Donc, Élie n'est pas le seul prophète restant, mais dans l'obscurité de ses pensées, il s'est convaincu qu'il était le seul qui restait. Qu'il était le dernier homme debout. Tout le monde s'était détourné, mais Élie croyait qu'il était le dernier fidèle. Mais ce n'était tout simplement pas vrai. Il est si facile lorsque nous sommes au milieu d'un profond découragement de créer un récit déformé. Il est si facile de faire en sorte qu'il semble que le monde entier est contre vous. Vous essayez de faire ce qui est juste, mais le mal semble continuer de gagner, alors vous commencez à croire que tout le monde est contre vous, que vous êtes le seul à comprendre, que vous êtes le seul qui comprend les choses, que tout le monde a tort, sauf vous, et à cause de cela, le monde est contre vous, que tout le monde cherche à vous atteindre.
Il est également facile d'oublier les bonnes choses qui se sont produites.
Élie ne mentionne pas quand Dieu a pourvu à ses besoins au ravin ou par l'intermédiaire de la veuve. Et il ne mentionne pas l'œuvre puissante de Dieu au mont Carmel contre les faux idoles. Il ne mentionne probablement pas ces choses parce qu'elles ne cadrent pas avec le récit dans son esprit. Il est difficile d'être positif quand on veut vraiment être négatif.
Les sentiments d'Élie étaient réels. Le problème était que ses sentiments n'étaient pas tous basés sur la réalité. Certains l'étaient,
mais d'autres ne l'étaient pas.
Comme le dit l'adage, les émotions sont de bonnes élèves, mais de mauvais professeurs.
Ses émotions l'avaient submergé et il ne pouvait plus voir la réalité. Tout était devenu déformé dans son esprit. Ses pensées étaient devenues tordues.
Et rappelez-vous, Élie avait été seul pendant longtemps. Il n'y avait personne pour remettre en question sa façon de penser.
Il était prisonnier de son propre esprit.
Quand des choses difficiles se produisent, quand les tempêtes de la vie arrivent, il peut être facile de perdre le contact avec la réalité. Parce que les émotions surgissent. Les émotions sont réelles. Le danger survient lorsque nous commençons à créer dans notre esprit des récits où c'est moi contre le monde. Le danger, c'est quand je commence à penser que personne ne pourrait jamais comprendre la position dans laquelle je me trouve. Le danger, c'est quand je suis seul avec ces pensées et que je ne laisse personne entrer. C'est un endroit sombre, car il est vraiment facile de rester dans ces pensées, de continuer à construire ce récit.
Élie avait partiellement tort dans sa conclusion, mais nous devrions le féliciter pour avoir été honnête avec le Seigneur. Son récit était peut-être un peu décalé, mais il s'est adressé au Seigneur honnêtement et avec le cœur.
Maintenant, Dieu va-t-il le remettre sur le droit chemin?
Dieu va-t-il le corriger ou le réprimander?
Comment le Seigneur va-t-il gérer son prophète qui traverse une période sombre? Il dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. » Et voici, le Seigneur passa, et un grand vent fort déchira la montagne et brisa les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre.
Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre.
Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu.
Dieu ne corrige pas Élie.
Il ne le réprimande pas. Au lieu de cela, il dit à Élie d'aller se tenir sur la montagne. Rappelez-vous, c'est la même montagne où Dieu a montré à Moïse sa gloire et sa bonté. Alors Dieu dit à Élie de se tenir sur la montagne. Et un grand vent fort arrive. Le vent est si fort qu'il déchire la montagne et la brise en morceaux. C'est une démonstration forte et puissante. Et vous pensez, waouh! Dieu montre à Élie à quel point il est puissant et fort. Mais ensuite il est dit, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Ensuite, un tremblement de terre vient et secoue tout. Et vous pensez, waouh! Dieu montre à Élie à quel point il est puissant et fort. Mais ensuite il est dit, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, après le tremblement de terre, un feu arrive. Élie connaît le feu, n'est-ce pas?
Il a demandé au Seigneur d'envoyer le feu sur le mont Carmel.
Et le feu arrive. Et vous pensez, waouh! Dieu montre à Élie à quel point il est puissant et fort. Mais ensuite il est dit, mais le Seigneur n'était pas dans le feu.
Maintenant, toutes ces choses, le vent, un tremblement de terre et le feu, avaient été utilisées dans le passé pour annoncer la présence de Dieu, pour annoncer que le Seigneur était là ou qu'il arrivait.
Mais le texte est très clair sur le fait que ce n'est pas ce qui se passait ce jour-là. Le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Alors, où était le Seigneur?
12. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le son d'un doux murmure. 13. Et quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici, une voix vint à lui et dit, « Que fais-tu ici, Élie ? » Le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Le Seigneur se trouvait dans le doux murmure. Vous voyez, Élie connaissait les œuvres spectaculaires de Dieu. Il avait vu le Seigneur lui apporter de la nourriture d'un oiseau. Dieu l'avait utilisé pour ramener à la vie le fils de la veuve. Il avait vu Dieu faire descendre le feu sur le mont Carmel. Élie connaissait bien les œuvres spectaculaires de Dieu. Il les avait vues, il les avait vécues.
Ce qu'il semble ne pas avoir beaucoup expérimenté, c'était la voix calme de Dieu. C'est le doux et léger murmure qui l'a fait sortir de sa grotte. Pas le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais le doux et léger murmure de Dieu est tout aussi puissant
qu'un tremblement de terre ou un feu. Parfois, lorsque nous prions et invoquons la puissance de Dieu, nous prions ainsi. Seigneur, envoie ton feu du ciel. Seigneur, fais trembler cet endroit avec ta puissance.
Saint-Esprit, souffle ton vent puissant sur nous.
Les chrétiens prient ce genre de prière tout le temps. Est-ce que c'est mal? Bien sûr que non.
Mais je pense que ces versets nous montrent que la puissance de Dieu ne réside pas uniquement dans le spectaculaire.
La puissance de Dieu n'est pas seulement dans les vents, les tremblements de terre ou les incendies. Mais la puissance de Dieu se trouve aussi dans le calme. La puissance de Dieu est présente lorsque vous étudiez à la bibliothèque. La puissance de Dieu est présente lorsque vous êtes dans un bus bondé. La puissance de Dieu est là dans les moments de calme de la vie.
Il pourrait envoyer du feu, mais souvent il agit dans le calme. Et ce jour-là, le murmure est exactement ce dont Élie avait besoin. C'est ce qui l'a fait sortir de la grotte. Et le murmure était si puissant qu'Élie a enveloppé son visage. Et Dieu vient à lui à nouveau avec la même question qu'il a posée au verset 9. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu essaie de montrer quelque chose à Élie, mais il semble qu'Élie ne comprenne toujours pas, car il donne la même réponse qu'il a donnée au verset 10. « Je suis rempli d'un ardent zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Et seul je suis resté, et il cherche à prendre ma vie. » Malgré le fait que Dieu se soit révélé à Élie et l'ait soutenu, Élie est toujours coincé dans son récit. C'est toujours Élie contre le monde, dans son esprit. Mais Dieu ne le réprimande pas. Au lieu de cela, Dieu lui donne quelque chose à faire.
15. Et le Seigneur lui dit, « Va, retourne dans le désert de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour être roi sur la Syrie. » 16. Et Jéhu, fils de Nimshi, tu loindras pour être roi sur Israël. Et Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Mehola, tu oindras pour être prophète à ta place. 17. Et celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le mettra à mort. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le mettra à mort. 18. Cependant, je laisserai 7000 en Israël, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal et chaque bouche qui ne l'a pas embrassé. Dieu dit à Élie de retourner au nord pour nommer de nouveaux rois et pour nommer un successeur, nommé Élisée. Parfois, la meilleure chose à faire, quand on se sent découragé et abattu, est de se remettre au travail, de sortir de notre tête et d'utiliser nos mains.
Et au verset 18, Dieu rappelle à Élie que l'histoire qu'il se raconte n'est pas exacte. Élie n'est pas le seul restant. Tous les genoux ne se sont pas courbés devant Baal. Mais il y aura 7000 en Israël. Il y aura un reste qui restera fidèle au Seigneur.
Au début du chapitre 18, Élie a essayé de démissionner. Il a demandé à Dieu de prendre sa vie. Mais tout comme Moïse, tout comme Job, tout comme Jérémie et tout comme Jonas, Dieu n'a pas accédé à leur demande. En d'autres termes, Dieu n'en avait pas fini avec Élie. L'histoire d'Élie n'était pas terminée, même s'il pensait qu'elle l'était. Dieu s'est occupé de lui, Dieu l'a restauré, et Dieu a continué à l'utiliser pour investir dans la génération suivante. En Élisée.
La semaine dernière, j'ai dit que tout le monde n'est pas comme Élie, et c'est normal.
Mais nous voyons dans le chapitre 19, et cela est aussi dit dans Jacques 5, qu'Élie était un homme comme nous. Dieu l'a utilisé pour accomplir beaucoup de choses extraordinaires, mais Élie était toujours humain, comme vous et moi. Et bien que nous ne nous identifions peut-être pas à Élie dans 1 roi 18 quand il était au sommet de la montagne, je pense que nous pouvons certainement nous identifier à Élie ici dans 1 roi 19 quand il était dans la vallée. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri du découragement. Nous vivons encore dans un monde pécheur et brisé. Il y a toujours des gens comme Jézabel qui veulent de mauvaises choses pour votre vie. Jésus a dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Il y aura des épreuves, il y aura des persécutions. Il y aura des hauts et des bas, c'est la vie.
La question est, où allez-vous dans ces moments-là?
Je pense que ce que nous voyons dans le chapitre 19
c'est que l'une des pires choses à faire est de s'isoler, de se couper des autres, d'aller profondément dans la caverne, d'être seul avec ses pensées, parce que c'est un endroit très sombre, comme nous le voyons avec Élie. Au lieu de cela, quand vous luttez contre le découragement, quand vous êtes au bord du désespoir, tournez-vous vers le Seigneur et vers les autres. Ne traversez pas cela seul. Sortez de la caverne. Parce que, lorsque vous tendez la main, vous comprendrez qu'il y a une perspective plus large. Vous pourriez ne pas sentir que Dieu agit, mais Dieu agit. Vous pourriez ne pas avoir l'impression que vous allez vous en sortir, mais Dieu vous en fera sortir.
Je ne sais pas combien de fois j'ai rencontré des personnes dans le bureau de l'église qui avaient l'impression que leur vie était finie, qui ne voyaient pas d'issue, qui se sentaient comme un échec, qui étaient désespérées, et simplement les encourager, en leur disant qu'éventuellement, cela passera. L'Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps et une saison pour chaque chose, et bien que l'on puisse avoir l'impression que cette saison durera éternellement. Les saisons finissent par changer. Les saisons ne durent pas éternellement, même si le temps qu'il fait dehors ne semble pas changer. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu vous en fera sortir. Cela pourrait ne pas en avoir l'air sur le moment, mais je suis sûr que nous pourrions faire le tour de cette salle et entendre histoire après histoire sur la façon dont Dieu a aidé quelqu'un à traverser une période vraiment sombre.
Ce chapitre rappelle également que, lorsque vous traversez une période sombre, Dieu est là, et il se soucie de vous. Il se soucie de vos besoins physiques et de vos besoins spirituels. Vous pourriez le chercher dans le vent, ou dans un tremblement de terre, ou dans un feu, et ne pas le trouver. Mais il est là, il est toujours là, même dans le silence. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous donne un repos spirituel. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous pouvons nous reposer dans son œuvre achevée sur la croix quand nous croyons en lui. Mais nous trouvons également en lui notre refuge et notre force, émotionnellement et physiquement aussi. Il est le puits qui ne s'assèchera pas. Il vous voit et il se soucie de vous. Il est avec vous sur la montagne et il est avec vous dans la vallée. Voudriez-vous m'aider à chanter le deuxième couplet ?
J'ai presque lâché prise quand la tempête violente faisait rage. Et que la nuit était longue et solitaire. Il semblait qu'il n'y avait pas d'espoir. Puis j'ai crié vers toi, et tu as parlé dans les ténèbres, que la lumière soit. Et ce qui était impossible, tu l'as rendu possible. Jésus y est. Jésus y est. Tu l'as fait encore. Jésus y est. À ta manière spéciale. Ce qui était impossible, tu l'as rendu possible. Jésus y est.